première visite à Toronto du pianiste Ivan Illich. Pas la dernière, on l'espère, puisque c'est un pianiste dont on dit beaucoup de bien et qui nous fait le plaisir d'une rencontre aujourd'hui. Bonjour Ivan.
Bonjour.
Vous êtes né et vous avez grandi aux États-Unis.
Tout à fait, oui.
Maintenant, vous êtes installé en France.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené en France?
En fait, après mes études californiennes à l'université de Berkeley, je cherchais les meilleurs professeurs en Europe parce que je me suis dit, comme beaucoup d'Américains, que je voulais m'installer en Europe pour absorber un peu la culture à la source. Et puis j'ai fait des recherches puisque j'avais une bourse pour faire cela. Alors je suis parti à Vienne, à Londres, à Prague, à Belgrade bien sûr, là où il y a mes parents qui sont nés. Et finalement, je me suis rendu compte qu'à Paris, c'était le niveau le plus intéressant, le plus élevé. On avait les attentes les plus élevées. Et c'est ça qui m'intéressait, d'être entouré de gens de très haute qualité. Et voilà, je me suis installé à Paris pendant un an. Et puis, je ne suis jamais parti.
Les Français vous ont complètement adopté.
Oui, je suis très content en France aussi. Je me sens très à l'aise. C'est vrai que je pense que dans tous les pays, il y a des artistes qui font partie du paysage artistique assez rapidement. Et moi, j'en fais partie, je crois.
Vous avez adopté la France avec autant d'ouverture. Ça a été un coup de foudre, donc.
Oui, tout à fait. Je pense que ce n'est pas étonnant, d'ailleurs, parce que j'avais étudié un peu la langue française au lycée. Et j'avais senti... Que ça allait m'aller bien, en fait. Et puis, comme mes parents sont serbes, je savais que l'Europe m'intéressait. Mais alors, je ne savais pas si je voulais forcément m'installer dans un pays anglophone, comme la plupart d'Américains. Je trouvais ça un peu moins intéressant. Et donc, je suis parti en France, voilà.
Un choix dont on profite maintenant, puisqu'on a le plaisir de vous accueillir. Ces origines serbes, cette éducation américaine et ce passage en Europe, ça s'entend, ça? Ou est-ce que, comme interprète, ça vous nourrit d'une certaine façon?
Ah, tout à fait. Enfin, je crois, parce que quand je compare avec mes collègues qui par exemple, qui sont français, qui ne sont jamais partis, qui n'ont pas l'habitude d'aller, d'ouvrir vers une autre culture, enfin, je pense que ça change quand même pas mal de choses. Moi, c'est surtout mon côté serbe, en fait, qui a fait que je suis autant intéressé à la musique classique, puisque quand j'étais enfant, j'ai passé mes étés à Belgrade, où il y a énormément de musique classique, où il y a notamment des jeunes de mon âge qui jouaient magnifiquement. Et voilà ce qui m'a donné envie, en fait, de voir cette culture-là. Et du coup, de retour aux États-Unis, je travaille mon piano avec des souvenirs de ce que j'ai entendu en Serbie.
Mais en même temps, ce n'est pas à la musique que vous étiez destiné, mais davantage aux mathématiques. En tout cas, officiellement, quand vous avez quitté la maison pour l'université, c'est le prétexte que vous avez donné.
Voilà, on va dire ça comme ça. Puisque c'est vrai que mes parents, au départ, comme beaucoup de parents, s'inquiétaient, ne pensaient pas qu'un musicien peut faire sa vie, etc. Heureusement que je ne les ai pas trop écoutés. Je viens plutôt d'une famille de scientifiques, donc il y avait des attentes forcément. Je me suis rendu compte à l'université que devenir ingénieur, ça ne m'intéressait pas. C'était surtout les maths qui m'intéressaient. Et par la suite, c'était encore plus la musique. Et je crois que le choix s'est fait naturellement. Moi, j'en suis fier d'ailleurs, que le choix s'est fait petit à petit. En travaillant, en se rendant compte que finalement, ce que je voulais faire de mes journées, c'était la musique.
Mm-hmm. C'est un monde quand même assez rapproché. On le dit souvent, les mathématiques et la musique sont proches parents d'une certaine façon.
Oui. Je crois qu'il y a des rapports, mais enfin, ça m'échappe précisément pourquoi c'est le cas. Mais c'est vrai que, par exemple, à Berkeley, c'est une université qui est connue pour les matheux, pour les ingénieurs, etc. Il y en avait beaucoup qui faisaient de la musique, qui pratiquaient, qui donnaient des concerts, etc. Mm-hmm. Des gens qui étaient très brillants, d'ailleurs. C'était même pas les gens qui assistaient pas aux cours, c'était des gens sérieux, mais qui trouvaient le temps de faire du piano, du violon, etc. Mm-hmm.
Et quand on reçoit des compositeurs à l'émission, il est assez fréquent de constater que plusieurs ont fait des études en mathématiques
assez
poussées.
Tout à fait, oui. Ouais. Mm-hmm. Oui.
Est-ce que ça fait de vous un pianiste davantage cérébral qu'émotif?
Je crois pas. Enfin, moi, de toute façon, je suis pas de cet avis-là. C'est vrai que la plupart de personnes qui lisent ma biographie et qui savent que j'ai ce background, du coup, ils pensent que, voilà, je suis forcément cérébral et qu'il y a moins d'émotions qui passent. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Au contraire, je pense que ce qui m'attire davantage vers la musique, c'est l'émotion. C'est le fait qu'on peut partager avec les autres tout ça. En maths, malheureusement, on n'a pas cette occasion-là, même si c'est passionnant. Mm-hmm. Mais on n'a pas le partage. C'est moins de l'art.
Oui, et c'est davantage du travail tout seul, de la recherche à long terme. Oui. Vous avez vraiment eu besoin de ce partage, d'une certaine façon.
Tout à fait, oui, je vis de ça, en fait.
Vous avez mentionné le fait que vous étiez fier d'avoir débuté votre carrière de musicien sur le tard, parce que vous jouez du piano depuis plusieurs années, oui. Mais la décision d'en faire une carrière est arrivée plus tard. Mmh. Est-ce que ça change quelque chose dans l'apprentissage, par exemple, si on compare avec un petit garçon qui est plus ou moins enclin à vouloir faire ses exercices, qui se fait un petit peu pousser, avez-vous le sentiment que cette décision-là, qui a été prise de façon plus libre, change les choses?
Absolument, c'est une excellente question, d'ailleurs c'est la première fois qu'on me pose cette question, et je crois que justement l'avantage c'est que maintenant je n'ai pas de doute, je regrette pas, j'ai pas de regrets, alors que la plupart de mes collègues, non seulement se posent la question « qu'est-ce que j'aurais pu devenir si j'ai pas fait ça ?» mais aussi qui n'ont pas la capacité de changer maintenant, qui ne savent pas écrire d'une façon claire, structurée, comme ce qu'on apprend à l'université en général, qui n'ont pas de centre d'intérêt même, qui ne lisent pas. Enfin, c'est très étonnant, justement. Je constate que ce sont des gens très brillants, avec des QI assez élevés pour la plupart, des pianistes de haut niveau, qui ont quand même des grandes qualités intellectuelles, mais qui n'ont pas été développés. Et voilà, je pense que ça va jouer beaucoup de ma carrière après, si jamais j'enseigne ou je décide de partager ce que j'ai vécu avec les autres, je vais en parler justement.
Et vous aimeriez enseigner, c'est une avenue qui vous intéresse?
Moi, ça me fait peur justement parce que ça me passionne. Et les peu de fois que j'ai donné un masterclass, j'ai essayé d'enseigner, je me suis donné tellement que après, j'avais plus d'énergie ni de volonté pour travailler. Et donc, je fais très attention de ne pas trop en faire. Mais c'est vrai que c'est un travail, c'est un autre métier, il faut le dire. C'est souvent qu'on compare les gens qui pratiquent et les gens qui enseignent. Mais il faut en fait accepter qu'on peut être un maître tout en étant un enseignant. Mm-hmm. Que c'est une autre chose à maîtriser.
Oui, quoi que ça demande quand même une gestation, pas une gestation, mais une gérance d'agenda assez serrée aussi.
Oui, tout à fait.
Heureusement, la période de discussion à laquelle vous serez, dans laquelle vous serez impliqué, aura lieu après le concert de vendredi soir.
Oui.
Alors, vous n'aurez pas l'occasion de vous vider avant.
Voilà.
Y a le concert de demain soir au studio Glenn Gould, qui est un endroit très accueillant. Est-ce que vous avez commencé à travailler au Glenn Gould?
Oui, j'ai répété un peu, c'est une salle effectivement très intéressante, oui, sur le plan acoustique, et le piano est merveilleux, enfin, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un concert très intéressant.
Voilà. Et que vous commencerez par une pièce qui a été écrite à votre intention.
Oui, tout à fait. Donc c'est un compositeur américain qui s'appelle Kirill Makan, qui vient de remporter le prix de Rome, d'ailleurs, cette année, il vit à Rome. C'est très, très dur pour lui en ce moment.
Oui, on imagine.
Ça comme ça. Donc oui, il m'a écrit cette œuvre et je la joue très, très souvent, en fait, pour ouvrir les concerts, parce que ça ouvre les oreilles du public. C'est une œuvre très particulière, d'ailleurs, qui utilise les résonances naturelles du piano, qui fait en sorte que je joue très peu de notes et on est forcé, c'est-à-dire le public, à écouter ce qui suit. Et le titre « Afterglow », c'est bien pour cela que ça s'appelle comme ça. C'est très intéressant. Et ça a tendance à calmer le public, à les détendre. Et après, tout ce qu'ils entendent, ils sont beaucoup plus à l'écoute. Donc, en fait, c'est à la fois pratique, pragmatique, disons, comme façon d'ouvrir un concert. Et c'est aussi une façon de soutenir les jeunes compositeurs, ce que j'adore faire quand ça colle bien au programme.
Oui. D'ailleurs, c'est une façon de nous prédisposer à accueillir Debussy.
Oui, tout à fait, puisque justement à ce compositeur, j'avais prévenu que j'allais jouer les œuvres de Debussy avec, les préludes que j'ai enregistrées récemment. Et donc je pense qu'il les avait écoutées un peu, parce qu'on entend les influences et ce sont des pièces qui sont magnifiques ensemble.
Vous les avez enregistrées, ces pièces-là, mais pas dans l'ordre dans lequel elles sont jouées généralement. Vous avez changé l'ordre.
Oui.
Pourquoi?
Bon, il y a deux réponses possibles. Disons, la réponse officielle, c'est que, en fait, l'ordre n'est pas l'ordre chronologique dans lequel les pièces ont été composées. Donc l'ordre était soit choisi par Debussy sur le tas, à mon avis, soit choisi par l'éditeur. Ça, c'est la raison officielle. Mais la vraie raison, c'est qu'en donnant des concerts, en passant des tournées, je me suis rendu compte que l'ordre d'origine n'est pas forcément l'ordre idéal. C'est-à-dire que...
Pour l'auditeur.
Pour l'auditeur. À certains endroits, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, l'auditeur, enfin le public toussait, était mal à l'aise, etc.
Commençait à s'ennuyer un peu ?
Voilà, je pense que c'est comme dans un film où l'histoire se déroule, il y a un moment où c'est moins fort, forcément. Et justement, en changeant l'ordre, en expérimentant avec cela, je me suis rendu compte que ça marche beaucoup mieux. Donc j'ai gardé mon ordre, bien sûr, c'est assez controversé, on m'a critiqué pour certains, mais je reste sur cette idée qu'on peut être un peu plus flexible, même dans la musique classique, on n'a pas besoin toujours de suivre les mêmes règles, comme à l'église, de lire les mêmes passages du Bible dans le même ordre. Je trouve ça, il faut sortir de cette réflexion-là, qui est très limitante finalement.
Ouais. Cela étant dit, il y aura aussi au programme deux œuvres pour la main gauche.
Oui, tout à fait.
Vous avez une affection particulière pour cet exercice?
Oui, moi j'adore cela. En fait, depuis mes études universitaires, j'avais appris le concerto de Ravel pour la main gauche, puisque je voulais justement travailler sur mes points faibles, comme tout le monde, puisque je ne suis pas gaucher. J'avais une main gauche forcément un peu moins agile qu'à la main droite. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était un répertoire passionnant, qui est très peu joué en concert, justement, parce que c'est pour la main gauche, on trouve ça un peu bizarre, on a peur que ça fasse un peu de cirque, que les gens se concentrent trop là-dessus, etc. Mais en fait, ce sont des œuvres qui sont magnifiques et qui méritent d'être jouées. Donc tout simplement, je les joue pour cela.
Et vendredi soir, donc un contexte très différent à l'Alliance française sur Spadina Road. Oui. Ce n'est pas une salle de spectacle, donc les gens seront tout près de vous. Il y aura conversation, discussion avec les gens. Oui. Ça vous plaît ça, ce genre
d'exercice? Oui, j'adore justement. Ouais. Moi, je suis toujours pour tout ce qui est échange avec le public. D'ailleurs, après les concerts, en général, je reste partagé avec le public. J'aime pas me cacher dans la loge comme certains. Au contraire, j'aime avoir les impressions. C'est très, très important pour moi de savoir ce qui a marché, de savoir éventuellement ce qui n'a pas plu aux gens. Et puis, l'idée qu'on me pose des questions, au contraire, ce sont des questions très intéressantes. Et je me rends compte du point de vue de l'auditeur, c'est quand même capital.
Et présentement, on assiste à votre montée partout dans le monde. Quand vous serez une star, Ivan Illich, vous serez aussi disponible et généreux?
Toujours, toujours.
Alors, vous êtes invité pour votre prochain passage à Toronto.
C'est très gentil, merci.
Et tout de suite, là maintenant, on va vous entendre dans l'interprétation du premier mouvement de la sonate en fa majeur de Joseph Haydn, Allegro Moderato. Est-ce que c'est un disque officiel, ça, ou c'est une espèce de
document? Non, pas pour l'instant, justement. Ça, c'est un disque dont j'ai enregistré quelques œuvres et qui vont sortir plus tard.
D'accord.
Donc en fait, j'en profite puisque j'ai envie de partager comme le montage est fait. J'aime partager ce genre de travail avant que ça sorte pour voir les premières réactions des gens. Et après, normalement, mon label est très intéressé par l'enregistrement Haydn. Alors on va voir par la suite si ça va sortir.
Alors encore une façon différente de faire les choses, signé Ivan Illich. Bienvenue à Toronto.
Merci.
Au revoir. Thank you. Voilà. Ivan Illich, dans son interprétation du premier mouvement Allegro Moderato de la sonate en fa majeur de Joseph Haydn, ça fera éventuellement partie d'un disque à venir, puisque son premier disque, premier CD, a été dédié au prélude de Debussy. Ça vous donne envie d'en entendre davantage. Il est en récital demain soir au studio Glenn Gould à Toronto. C'est prometteur. Il aime le piano, il aime l'acoustique. Si vous voulez y assister à ce concert, faites vite. Je ne crois pas qu'il reste beaucoup de billets. Et si jamais vous ratez le rendez-vous de demain, il y a possibilité de le rencontrer, de l'entendre et de lui parler, puisqu'il sera à l'Alliance française de Toronto à compter de 19h, vendredi soir, pour un court récital et conversation sur son métier, etc. Ça, c'est prévu pour 19h. L'Alliance française de Toronto qui est située au 24 Spadina Road.